des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
Vous écoutez
Martino,
Cube Radio.
Il y a beaucoup, beaucoup d'itinérants à Montréal et moi, j'ai l'impression que la ville ne fait rien. Strictement rien. Je vous en ai souvent parlé, moi, tous les matins, pour venir ici au studio de Cube Radio, je dois descendre l'avenue du Parc. Et chaque fois, je descends du Parc, et t'es au coin du Parc et Milton, t'as beaucoup, beaucoup d'itinérants, des sans-abri, surtout autochtones, qui sont là, puis je regarde, puis ils font pitié, vraiment, là, il y a comme un campement, ils dorment devant les commerces, ils chient des fois devant les commerces, c'est pas drôle pour les commerçants, c'est pas drôle pour les résidents, c'est pas drôle pour ces gens-là qui sont sous à 7 heures le matin, puis qui délirent dans la rue. Que fait la ville là-dessus? On va en parler avec Mme Catherine Marcoux, qui est organisatrice communautaire au réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Bonjour Mme Marcoux.
Bonjour, M. Martineau.
Avez-vous cette impression-là ou qu'on dirait que on dirait que c'est comme la ville baisser les bras en disant ben oui, il y a des itinérants et voilà.
Ben non, on a reçu un rapport de l'Observatoire des profilages cette semaine qui parlait des infractions liées à la COVID. C'est une autre façon un peu de voir ça. La judiciarisation des personnes en situation d'itinérance par les policiers de la ville, justement. Donc je ne sais pas si vous avez vu passer ce rapport-là qui comptabilise toutes les données judiciaires, c'est ça, des tickets de COVID, comme on appelle, de mars 2020 à juin 2021. Qu'est-ce qu'on a vu, nous, c'est que 275 tickets sur les près de 32 000 tickets qui ont été analysés qui ont été remis à des personnes qui ont donné une adresse associée à des ressources en itinérance. Donc, c'est près de 50% à Montréal, mais il y a aussi dans d'autres villes, donc en Abitibi, en Esprit, à Québec, ailleurs au Québec.
Mais c'est profondément stupide de donner des constats d'infraction à des gens qui sont itinérants, qui n'ont même pas d'argent pour manger. On sait bien qu'ils ne paieront pas, là. C'est une perte de temps et une perte d'énergie, là.
Exactement, je suis d'accord avec vous. Un ticket donné à une personne en situation d'exclusion ou d'itinérance, c'est un ticket de trop. Donc, on sait que pour vous et moi, 1 550 $ de contravention, c'est un gros montant. Donc, on n'imagine même pas pour les personnes en situation d'itinérance qui vivent, par exemple, sur un chèque d'aide sociale, ça représente 2 mois de revenus. Donc, on peut s'attendre que ces personnes-là ne seront pas en capacité de payer, en effet.
Ben, ils vont, et puis s'ils peuvent pas payer, on fait quoi? On les envoie en prison ou quoi?
Non, c'est ça. Ben, il y a des façons de contester ces tickets-là. Donc, à Montréal, il y a des programmes qui permettent d'annuler des tickets remis aux personnes en situation d'itinérance par des infractions municipales, mais ça n'existe pas encore pour les tickets COVID. Il y a un processus qui est quand même informel. C'est pas clair si la procédure est encore possible, mais qu'un organisme envoie une lettre au bureau des infractions puis des amendes qui stipule que la personne est en situation d'itinérance. Mais tu sais, pour que ça s'applique, il faut que la personne soit au courant que ça existe, faut être en lien avec un organisme, puis il faut que tu cadres dans la définition très stricte de c'est quoi être une personne en situation d'itinérance. Selon le décret COVID, justement.
C'est quoi le profil des itinérants? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui ont des problèmes de santé mentale?
Dans le cas des étiquettes qui ont été données, là, c'est une définition très stricte qui a été donnée. Donc, c'est des personnes en situation d'itinérance visible, des sans-abri qui ont défini, donc ceux qui n'ont pas d'adresse. Ça fait que ce sont les 275 personnes qui ont donné une adresse dans un
mais indépendamment des constats d'infraction, le profil type de quelqu'un qui est dans la rue, est-ce qu'il y en a beaucoup qui souffrent de problèmes de santé mentale? Moi, c'est l'impression que j'ai, parce qu'il y en a vraiment qui délirent à voix haute, puis tout ça, puis ça me déchire le cœur, puis je dis, mon Dieu, la place de cette personne-là, c'est dans une institution, dans un hôpital, je sais pas trop quoi, c'est pas d'être tout seul dans la rue, là.
Ouais, c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de facettes à l'itinérance. Il y a des problèmes de santé mentale, c'est sûr. Il y a des femmes qui vivent de la violence conjugale. Il y a des jeunes, il y a l'itinérance cachée, donc ce qu'on voit pas non plus dans la rue, nécessairement visiblement, mais qui sont aussi considérés comme en situation d'itinérance. Il y a les personnes justement qui consomment des drogues, qui ont une adresse, mais que, par exemple, ils ont reçu l'étiquette pendant le couvre-feu pour quand ils se rendaient à des sites de consommation supervisée. Donc, à Montréal, il y en a beaucoup de ça. Donc, c'est ça, l'itinérance, elle a plusieurs visages. Comme vous dites, vous avez parlé des personnes autochtones.
Oui.
Il y a des personnes LGBT aussi. Ça, il y a vraiment plusieurs facettes à l'itinérance.
Ben, je reviens là au coin du parc Hamilton, puis c'est un coin que vous connaissez, j'imagine, très bien, étant donné que vous travaillez avec des personnes itinérantes. Là, Ça fait presque des années que c'est là. Je les vois, là, c'est les mêmes personnes. Je les vois régulièrement. Puis je me dis, écoutons, Christine, la ville, vas-tu les prendre en charge? Parce que c'est pas drôle pour ces personnes-là. Et c'est pas drôle, faut le dire, pour les commerçants. Tu rentres le matin pour ouvrir ta boutique. Il y a quelqu'un qui dort devant ta boutique, qui a chié là, qui a vomi. C'est pas drôle pour les résidents aussi. Les résidents, il y a quelque temps, ont fait une manifestation dans la rue. Ils en voulaient pas aux personnes itinérantes. Ils comprennent fort bien que ce sont des gens dans le besoin. Mais ils disent, nous autres aussi, on voudrait que ce soit un quartier. Bon, c'est rendu, il y a un campement à ciel ouvert, puis tout ça, on peut pas laisser ça comme ça. Mais on dirait que la ville fait pas grand-chose, Mme Marcoux.
Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a des enjeux de cohabitation là, qui existent quand les personnes en situation d'itinérance se retrouvent justement visiblement dans la rue comme ça. Mais en même temps, les organismes, ils font vraiment de leur mieux avec les ressources qui leur sont allouées par la ville puis le gouvernement du Québec. Il y a beaucoup de travail qui est fait avec les citoyens aussi pour dire que ces personnes-là, ils ont aussi le droit d'exister, ils ont le droit d'habiter dans la ville. C'est des citoyens comme vous et moi. Donc, la solution, c'est pas juste non plus de les pousser ailleurs. Il faut qu'il y ait des ressources qui soient données aux organismes communautaires qui sont à mieux, qui connaissent le mieux les besoins des personnes en situation itinérante, justement.
Et nous, là, des itinérants, mettons, qui demandent de l'argent, qu'est-ce qui est mieux? Donner de l'argent, parce qu'on se dit tout le temps, ben là, il va acheter de l'alcool avec ça, ou peut-être de la drogue, c'est peut-être mieux de l'amener d'y payer un café, ou ça, on fait quoi?
Ben, écoutez, les personnes en situation itinérante, ils peuvent décider par eux-mêmes qu'est-ce qu'ils font avec l'argent qu'on leur donne. Après ça dépend de toi personnellement, est-ce que tu veux donner de l'argent ou pas, mais c'est sûr que vous pouvez aussi faire des dons à des organismes communautaires,
ouais.
Mais les personnes en situation itinérante sont capables de décider pour eux-mêmes qu'est-ce qu'ils font avec leur argent.
Tout à fait. Mais en tout cas, il y a vraiment un gros problème. Puis là, j'imagine, avec l'été chaud à venir, puis tout ça, les canicules, c'est pas drôle pour eux autres non plus, là.
Non, c'est sûr. Il y a des ressources, justement, d'hébergement qui sont ouvertes pendant l'hiver, pendant les grands froids, puis qui ferment à l'arrivée de l'été. Donc, ça aussi, c'est un problème. Le fait qu'il y a plusieurs places d'urgence, qu'on appelle, qui ferment pendant l'été. Nous, qu'est-ce qu'on voudrait, c'est que les ressources soient ouvertes à l'année parce que l'itinérance ne termine pas quand l'hiver termine, justement, comme vous dites. Donc, le fait qu'il y ait des lits qui soient coupés quand l'hiver termine, c'est inacceptable aussi.
Tout à fait. En tout cas, j'ai l'impression que la ville laisse ça traîner. Et d'un autre côté, traiter les itinérants comme si c'était des criminels puis leur donner des constats d'infraction, c'est complètement stupide. Merci beaucoup, Mme Catherine Marcoux, puis bravo pour le travail que vous faites auprès de ces gens-là. Merci.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
Merci. Bonne journée. C'est tout le temps qu'il me reste. Moscou vient d'annoncer qu'ils vont fermer le bureau de la CBC. En fait, c'est la Russie, le gouvernement russe, qui vient d'annoncer qu'ils vont fermer le bureau de la CBC à Moscou. Donc, pour moi, ils sont pas contents de la couverture faite par la CBC, par Radio-Canada du conflit. Donc, vous allez sacrer le camp, on ferme le bureau là-bas. C'est pas demain la veille que ça va se terminer, ce conflit-là. Tous les experts le disent, ça risque de traîner parce que les Ukrainiens sont convaincus qu'ils vont pouvoir défaire l'armée russe, vaincre l'armée russe. Les Russes, eux autres, ne veulent pas perdre la face. Poutine ne veut pas perdre la face, il veut continuer, donc ils vont s'affronter. Et il n'y a pas de maudite porte de sortie, malheureusement. C'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre dans une demi-heure, bien sûr. Merci à Florence Lamoureux, Frédéric Houle à la recherche. Merci beaucoup à Charlie Marchand à la réalisation, à la régie. Lui, Charlie, est un Français. Il vient de débarquer, ça fait pas très longtemps. Et il est allé aux petites créances parce qu'il y avait un problème là, d'arnaque et tout ça. Il s'est fait arnaquer. Il est allé aux petites créances pour régler ça. Puis on lui a dit, ça prend 3 ans. L'attente, c'est 3 ans. C'est ça, au Québec, ça marche, hein? Parce que, tu sais, Charlie, peut-être comme les Français, en disant, c'est tellement lourd en France, c'est lourd, la bureaucratie, alors que le Québec, c'est les grands espaces, c'est la liberté, c'est l'Amérique, ça fonctionne, c'est l'efficacité. On va aller au Québec, puis là, ça roule. Là, ça marche, au Québec. Ils arrivent ici, les petites créances, 3 ans, 2 ans, voir un psy, 1 an et demi, voir un dermatologue. Il manque de profs. Là, ils vont dire, là, Charlie et Achille, l'autre Français, ils vont dire, les deux, là, on retourne. On retourne à la maison. C'est quasiment pire que chez nous. courage. Courage. On a besoin de vous. Merci beaucoup à vous. On se reparle demain, 8 h. Bye.